Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour, je vous invite à faire la lecture dans l'Évangile de Luc. Et nous avons une belle petite parabole que Jésus nous laisse et qui va montrer à l'évidence toutes les attitudes diverses que nous pouvons avoir lorsque nous sommes confrontés avec la grâce et que nous réagissons souvent avec la frustration ou les contrariétés. Alors, notre situation dans notre Bible, c'est donc Luc, je l'ai déjà dit, au chapitre 15 et au verset 25. C'est un épisode qui fait suite à l'histoire du fils prodigue qui revient à la maison. Alors, donc, nous avons sous les yeux cette parole. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Alors nous avons matière à réflexion à travers cette petite histoire et j'aimerais justement la donner quelques points de référence. Pendant que la maison est en fête, puisqu'il y a là une bonne nouvelle, attendue depuis si longtemps, c'est le retour du fils prodigue. Alors le fils aîné est au travail. Voici le type même de celui qui ne veut ni ne sait se réjouir des grâces de Dieu. On pourrait peut-être, centrer notre réflexion sur ceux et celles qui restent en arrière, qui n'acceptent pas les bonnes choses. Et il s'agit des grâces, de la grâce d'un père qui étreint son fils, qui est parti dans toutes sortes d'aventures et de mésaventures, qui a dilapidé son bien, qui véritablement a gâché sa vie, mais qui revient à la maison au prix d'une véritable repentance. Et nous voyons que ce frère aîné, ce fils aîné, se tient à l'écart. Alors il y a une parole dans la Bible, dans le livre des Proverbes, qui nous dit ceci, et c'est une belle illustration, « Celui qui se tient à l'écart ne cherche que ce qui lui plaît. » Et nous voyons que ce sont des attitudes que nous pouvons avoir, que nous voyons autour de nous, mais que nous pouvons même rencontrer parmi les chrétiens dans nos églises. C'est-à-dire qu'il y a peut-être le phénomène de timidité, ça se comprend, mais quelquefois il y a des individus, des chrétiens, qui quelque part ne peuvent pas se réjouir des bonnes choses qui arrivent aux autres. Et c'est le cas, naturellement, de ce que nous avons là devant nous à étudier. Parce que ce fils aîné va prétexter à des choses utiles et sérieuses. Le retour de son frère depuis des années en errance, n'est pas pour lui quelque chose, un événement heureux. N'est pas quelque chose, en effet, qui, méritent d'être salués et fêtés. Alors, en fait, quelle image frappante que nous trouvons dans ce fils aîné, l'image que nous trouvons chez les pharisiens du temps de Jésus, les pharisiens dédaigneux qui refusent le contact du monde, de la fête, des bénédictions même accordées aux autres, qui peuvent leur être accordées eux-mêmes, mais en effet, eh bien, ils ne sont pas dans un état d'esprit pour recevoir ce que Dieu veut leur donner. Donc, refus de peur d'en être contaminé et rejeté. Tout dire, eh bien, c'est que ce sont des gens qui se considèrent au-dessus des autres, des gens qui sont vaniteux, orgueilleux, qui pensent être meilleurs que le reste des autres hommes dans le monde. Et nous avons une parabole fameuse du pharisien qui rentre dans le temple et le pauvre publicain qui lui se frappe la poitrine, image semblable, eh bien là, du fils prodigue et du fils aîné. Alors, nous voyons qu'en fond de, et ce qui dévoile la réaction de cet personnage, le fils aîné, c'est qu'en fond, il y a un fond de vexation et de frustration. Et nous savons que ça, ce sont des choses qui sont fréquentes dans la nature humaine. Celui-ci adresse, passez-moi l'expression, deux superbes accusations. Ce sont des accusations qui sont faites à son père. Nous voyons que son père vient vers lui, lui dit « arrête ton travail, viens te réjouir à la maison, nous avons tué le veau gras, nous sommes eh bien, en train de préparer quelque chose de formidable pour accueillir tout à nouveau et souhaiter la bienvenue à ton frère qui revient donc parmi nous. » Alors, ces accusations, la première, c'est qu'il reproche à son père sa manière d'agir envers lui. Et il dira, il pensera à lui parce que c'est l'ego qui prédomine dans cette situation, il dira à son père, « Jamais tu ne m'as donné un veau gras. » Voilà. Jamais tu ne m'as fait la fête, jamais tu as fêté ceci et cela, alors que c'était certainement complètement faux, mais véritablement il n'y avait pas eu l'occasion de faire la même fête qu'au retour, eh bien là, de son frère cadet. Jamais tu ne m'as donné. La deuxième accusation, c'est la conduite, il accuse directement son père envers son fils renégat. Alors il ajoute à ceci, « Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. » Mais il ajoute ceci, « C'est pour lui, ce renégat, mon frère, que tu as tué le veau gras. » On voit qu'il y a là un contrebalancement dans tout cela. Et naturellement, eh bien, ça véritablement souligne sa grande vexation et sa frustration. « Ce que tu fais pour lui, tu ne l'as jamais fait pour moi. » Alors il faut bien dire que ce fils, eh bien, est né, n'a pas fait les mêmes bêtises, il n'a pas suivi le même chemin et il ne s'est pas livré à des aventures douteuses. Alors il est resté bien sagement, mais il avait, et nous allons le voir d'ici quelques instants, il avait tout le privilège d'être dans la maison et de bénéficier en tant que fils et fils aîné, eh bien de tout ce que appartenait à son père, c'était aussi à lui. Alors c'est un jugement sévère sur la personne de son père, qu'il ne voit que comme un maître et non pas un père, où il en est rendu à comptabiliser ses années de service depuis si longtemps que je te sers. Vous savez, je crois qu'il y a ce caractère, cette attitude qui est entachée de récrimination, de protestation, de jamais de contentement et de bénéficier, eh bien, de savoir apprécier ce que l'on a sur le moment, ce que Dieu nous donne. C'est un peu l'attitude que des chrétiens peuvent avoir vis-à-vis de Dieu. Tu fais ça pour les autres, tu les as bénis, pourtant ils ne méritent pas d'être bénis, ça c'est clair. Et pour eux tu fais beaucoup de choses, mais pour moi tu n'as jamais rien fait. On comprend naturellement le raisonnement. Et le bien accompli, dans un état d'esprit de stricte légalité, on pourrait dire que le fils aîné se comporte alors qu'il est l'héritier, il est véritablement eh bien, en première ligne pour bénéficier de tous les biens de la maison, mais il se comporte comme un mercenaire, et son service, et ça c'est là où les choses se révèlent, eh bien, sont de la servilité sur un fond de frustration un fond de frustration que vous ne pourrez peut-être pas de dire, de qualifier de rentrer, de consommer, et cela certainement eh bien, depuis des années et des années. Ainsi animé, le fils aîné voit d'un mauvais œil, et oui, avec une mauvaise disposition, avec des mauvais mobiles, ce qui est bien, il le voit en mal. Ce qui mérite eh bien, d'être là, eh bien, considéré comme une bénédiction, une grâce, lui, il le voit véritablement comme une faiblesse. Et le retour en grâce du fils prodigue, du frère prodigue, qui lui, eh bien, est accueilli et fêté, et il est réintroduit dans la maison. Et pour ce fils aîné, c'est un véritable scandale. Comment se fait-il que Dieu, qui se dit juste et qui se dit là plein de toute bonne disposition, comment se fait-il que Dieu est capable de bénir des gens qui ont péché, des gens qui ont fait des fautes, des gens qui ont troublé peut-être leur petite société autour d'eux, qui ont peut-être volé, qui ont fait peut-être des choses encore beaucoup plus graves, comment se fait-il que Dieu puisse encore bénir ces gens-là? Voilà, la question elle est posée, et vous savez, il y a dans la Bible un texte, je crois qu'il nous vient de l'apôtre Paul, qui nous dit ceci: là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et c'est ça justement l'esprit de l'Évangile, l'esprit de la grâce, l'esprit du pardon, l'esprit du sermon sur la montagne en quelque sorte. Et c'est véritablement eh bien, le grand conflit qui existe entre ceux que l'on pourrait appeler les légalistes, ceux qui quelque part règle sur règle, précepte sur précepte, on ne fait pas grâce, il faut que tout mal, que tout péché, que toute infraction soit puni impitoyablement. C'est ce que nous dit la loi dans l'Ancien Testament, hein, qui n'exclut pas même dans l'Ancien Testament eh bien, qu'il peut y avoir la grâce. Mais il faut la saisir. Mais celui qui ferme son cœur, celui qui se referme, et celui qui reste sur ses principes intangibles de vengeance, de condamnation et également de revanche, eh bien, ne peut pas aller très loin. C'est pour lui un scandale. Alors que dans le Nouveau Testament, Jésus dit « Mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de vos péchés, de vos fautes, de vos erreurs, et moi je vous donnerai du repos, un repos de morale, un repos de la conscience et un repos d'esprit. » Alors comment peut-on pardonner aussi facilement? Toute la question est là. Comment puis-je pardonner ceux qui m'ont fait du mal, ceux qui m'ont maltraité, ceux qui m'ont humilié, ceux qui m'ont piétiné, ceux qui, quelque part, eh bien, ont été méchants avec moi, qui m'ont diffamé, qui se sont servis de toutes sortes de choses fausses? Comment puis-je les pardonner? Ça, c'est la grande question, naturellement, du pardon, et c'est ce que Jésus nous enseigne. Pardonner aussi facilement. Ça nous semble, et ça semblait probablement au fils prodigue, une monstrueuse injustice où les valeurs, nos valeurs à nous, comme nous l'entendons, eh bien, sont complètement, les valeurs de justice, sont complètement renversées. Alors, on pourrait peut-être donner déjà une première conclusion, c'est que là, eh bien, les choses, dans l'esprit du fils aîné, c'est un esprit implacable et sans appel. Il s'est trompé, il a dépensé la fortune de la famille, il s'est vautré avec des gens de mauvaise vie, il a fait des choses qui sont abominables, il a sali notre nom, alors c'est sans appel. Hein, il revient, d'abord peut-être pensait-il qu'il revenait non sincère, mais nous allons apprendre que quand il est revenu, le fils prodigue, il est revenu avec une véritable conscience là de sa faute et de son péché, et certainement dans les pleurs, dans une disposition qui lui permettait eh bien, là, d'être accueilli par son père. Donc, on peut peut-être ajouter ceci en ce qui concerne le personnage dont nous avons tiré notre leçon. Eh bien, c'est quelque part la caractéristique d'un homme qui veut s'efforcer dans toute sa vie de faire le bien. Ça, c'est sûr. Il se croit au-dessus des autres. Il s'auto-contente en disant « j'ai fait ceci, j'ai fait cela, donc je mérite ». C'est l'histoire des bonnes œuvres, naturellement. Alors, il veut s'efforcer de faire le bien, et il fait le bien dans la peine, avec peine, sans être remarqué, ni même récompensé. et que l'autre, son frère, c'est celui qui s'est vautré tout simplement dans la boue et qui a dilapidé, qui a en effet fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire, qui là, eh bien, s'est complètement discrédité aux yeux de la morale, naturellement, et auquel on accorde tous les honneurs. C'est ça, justement, le gros problème. Est-ce que je suis capable encore de pardonner à des gens qui, quelque part, eh bien là, ont entaché peut-être mon honneur, qui ont fait des choses que ma conscience réprime, mais que je ne peux pas accéder à leur donner mon pardon. C'est pas possible. Et c'est à ce frère qui revient repentant que le Père, parce qu'il reste toujours un Père, c'est l'image de Dieu, le Créateur, avec l'homme, sa créature, et où nous savons qu'à travers le message de l'Évangile, eh bien, ce Dieu va pas tenir compte de notre honneur, de ce que nous avons fait en bien ou en mal, mais si nous venons et si nous revenons à lui avec, eh bien, une véritable contrition, une véritable repentance, eh bien, il va nous accorder tous les honneurs de celui qui revient, de celui qui reprend le bon chemin et qui va croire, c'est surtout cela d'ailleurs, qui va croire que par la foi, eh bien, Dieu est capable de continuer à nous aimer, de nous aimer encore, et que là, eh bien, en effet, il n'y a plus aucune condamnation si nous lui avons demandé pardon, si nous avons reconnu et confessé nos fautes, que là, eh bien, il n'y a plus de condamnation, on pourrait dire qu'il n'y a même plus de châtiment, et qu'en effet, eh bien, ce n'est pas une affaire de mérite, c'est une affaire tout simplement de repentance et de grâce. Alors, quant au Père, ne donne-t-il pas la preuve, si nous y réfléchissons de cette manière, ne donne-t-il pas la preuve d'une certaine sympathie avec le péché? Ça, c'est une question que nous pouvons nous poser. Le fils aîné peut se dire « mais mon père, il n'est pas juste, parce que moi, j'ai toujours fait ce qu'il fallait, je me suis toujours bien comporté, et je peux me permettre de lui dire eh bien, ce que je lui dis, parce que là, j'ai le sentiment que mon père... eh bien, du favoritisme pour mon frère renégat, pour celui-là qui, eh bien, a fait des mauvaises choses. Donc, mais on sait très bien que les yeux de l'Éternel, nous dit le prophète Habacuc, sont trop purs pour voir le mal. Quand Dieu bénit, quand Dieu accueille, quand Dieu, eh bien, en effet, recueille, c'est qu'il le fait tout simplement au prix de son amour et il ne voit plus le péché de ceux qui ont péché. Alors, c'est vrai que ça peut être une idée en disant « mais Dieu est injuste ». Et beaucoup de gens, en effet, qui voient en Dieu eh bien, un père fouettard, quelqu'un qui est dans l'absolu, eh bien, l'absolu légalisme, on pourrait dire de cette manière, alors il peut donner l'impression. Mais il y a quelque chose qui est plus fort que cette apparence qui laisse entendre eh bien, des choses qui nous induisent nous-mêmes dans notre raisonnement en erreur, c'est que, quelque part, on sait très bien que l'amour de Dieu et sa miséricorde sont au-dessus de la justice. Il nous est dit que la miséricorde prévaut sur la justice. Alors, le labeur de la loi, c'est-à-dire de vouloir faire les choses strictement comme il faut les faire, mais on n'y arriverait jamais, parce que on n'en est pas capable à cause du péché qui est le péché commun à tous les hommes, que l'on soit fils prodigue ou que l'on soit fils aîné, eh bien, nous voyons que le labeur, le travail de la loi est à choisir entre ce labeur de la loi et le bonheur de la foi. La foi, c'est véritablement l'acquisition de la paix, la tranquillité de l'âme, la une conscience purifiée, lavée, qui a été véritablement eh bien passée sous la main de Dieu, la main de la faveur et de la grâce de Dieu. L'aigreur peut vite prendre le pas sur la douceur de l'amour. Et ça, c'est aussi un point vulnérable dans la nature des hommes, c'est que nous avons peut-être une propension à laisser l'aigreur, laisser l'amertume, les frustrations, parce que ce qui est touché dans cette situation, eh bien, c'est véritablement, la frustration de voir que l'autre est privilégié et que moi je n'ai rien. Et cette amertume, eh bien, peut s'installer comme un venin, comme un poison. Et je pense que lorsque nous nous approchons de Dieu, nous allons connaître combien Dieu, eh bien, est rempli d'amour pour nous. Et là, à ce moment-là, nous serons tout à fait conscients qu'il nous faut aussi nous-mêmes, lorsque d'autres hommes, proches ou lointains, eh bien, viendront et peut-être nous auront molestés, nous auront fait du mal, que si nous avons été pardonnés, si nous avons été mis à la faveur de l'amour de Dieu et de sa miséricorde, devons-nous aussi, eh bien, reproduire la même chose et être miséricordieux et remplis de faveur et de grâce, parce que nous avons été l'objet de cette disposition divine. Alors, sortis de la vision de la grâce, voilà la question qui se pose, et nous pouvons peut-être maintenant ajouter ceci, que qu'est devenu le fils aîné ? Alors, on peut le supposer, Jésus ne le dit pas dans sa parabole, mais lorsque l'on sait, c'est que l'un est rentré dans la maison, le fils prodigue, il est rentré parce qu'on l'y a invité, il y a cru qu'il n'allait pas être mis à la porte automatiquement, directement, donc il a cru qu'il pouvait rentrer dans la maison, et il y est demeuré. Son père va lui remettre un anneau, il va lui remettre des vêtements propres, il va lui remettre des chaussures, etc. Nous retrouvons naturellement eh bien, tout cela dans le texte. Et l'autre, l'un rentre et demeure, l'autre, le fils aîné, est resté visiblement dehors. C'est ça. Et je crois que ça, c'est bien l'image du salut. C'est qu'il y a, tous les hommes sont appelés, tous les hommes sont conviés à recevoir la grâce de Dieu, à croire à la grâce de Dieu. Et je pense qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et nous savons que tous les hommes sont appelés. Mais vouloir être élu, il faut se présenter. Il n'a pas voulu rentrer dans la maison, donc il ne s'est pas présenté. Ça, c'est comme aux élections. Si quelqu'un veut être élu à quelque poste que ce soit, eh bien, il faut qu'il se présente, il faut qu'il se fasse connaître. Il faut qu'il aille vers les autres qui vont le reconnaître. Mais il faut qu'il fasse eh bien, cette démarche. Donc, l'autre est resté visiblement dehors. Et ça, il y a naturellement ceux qui sont sauvés et ceux qui demeurent perdus, et tout cela par incrédulité. Alors, je dirais qu'à chacun d'entre nous qui entendons cette parabole ou qui la lisons, eh bien, à chacun d'achever cette image que Jésus nous laisse en s'interrogeant pour soi-même, comment aurais-je réagi en lieu et place, alors du Père, du Fils prodigue, mais surtout comment aurais-je réagi en lieu et place du Fils aîné. La conclusion pourrait être celle-ci, c'est une parole qui est le centre même eh bien, de l'Évangile, je ne dis pas de la Bible, mais de l'Évangile, l'esprit de l'Évangile, où il est dit ceci, c'est par la grâce, au moyen de la foi, que vous êtes sauvés. Et je voudrais ajouter un mot, je vais là faire une petite digression, je dirais que c'est par le moyen de la foi que vous êtes graciés. Tout simplement, c'est parce que je crois que Dieu va m'apporter sa grâce. Ce n'est pas par les œuvres. Voyez ce garçon, plein de lui-même, ce fils aîné, qui va dire « mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai travaillé pour toi, j'ai consommé finalement toutes mes forces ». Donc ce n'est pas par les œuvres, ou les bonnes œuvres, si l'on veut y donner une connotation religieuse, « afin que personne ne se glorifie ». Il y a ce fils prodige, qui lui se glorifie pas de ses aventures. Au contraire, il s'en humilie. Il a honte. Il est rempli de confusion. Il se dit, j'ai fait des bêtises, alors je reviens. Mais vraiment, là, dans mon cœur, je ne veux plus que cela se reproduise et je reviens dans la maison de mon père. Il m'accueille. Il me témoigne qu'il m'accepte. Il me redonne ma position précédente. Mais le fils aîné, lui, va se glorifier. Et à travers « tu n'as pas fait ceci », dira-t-il à son père, « tu n'as pas fait cela », etc. Et le père va lui répondre « mais mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi ». Voilà, tout simplement, parce que ton frère qui était perdu, il est revenu. Alors, nous avons naturellement eh bien, l'explication de ce beau verset, c'est par la grâce, au moyen de la foi, que vous êtes sauvés, graciés, et ce n'est pas par les œuvres, à prétendre, à mettre en valeur, afin que personne ne se glorifie. Maintenant, j'aimerais, avant de terminer brièvement, examiner deux causes qui président à l'état d'esprit, j'appellerais ça plutôt la mentalité, qui caractérise la susceptibilité du frère aîné, les préjugés et le jugement d'autrui. Alors, simplement et brièvement, qu'est-ce que les préjugés ? Il faut savoir que sinon, eh bien, la décode un petit peu le mot, c'est juger avant de connaître vraiment, réellement, justement, avant d'avoir examiné, dont les résultats souvent proviennent et sont à la cause, eh bien, de rumeurs, de oui-dire, de bruits divers, vrai ou faux, faux ou imprécis, incomplet, inexact, colporté et déformé, dénaturé, sorti de leur contexte. On m'a dit que, j'ai entendu dire que, ou j'ai entendu parler de. Le préjugé est un mal terrible qui génère le rejet de l'autre, celui qui est différent, ce qui donne le racisme, la xénophobie, en sous-main exploité par le diable, dans un but de ruiner la réputation, de saper la réputation ou l'honneur, la confiance, démolir, détruire, déclencher la méchanceté, donner la mort même. Et c'est l'univers de la médisance qui correspond. La médisance, c'est se servir du bien pour faire du mal. La calomnie, c'est salir. Eh bien là, la personne, et ça va jusqu'à la diffamation. Pour échapper à ce fléau du préjugé, l'élémentaire de la justice et la stricte vérité exigent, eh bien, à entendre l'accusateur et l'accusé, peut-être pas forcément en même temps, mais de se donner, eh bien, pour règle de savoir ce que dit l'un et ce que dit l'autre, c'est-à-dire les deux parties contradictoires. Vous savez, Voltaire a dit ceci, que les préjugés sont la raison des sots. Et nous en arrivons à un dernier point, c'est ce que Jésus nous dit dans le Sermon sur la montagne, « Ne jugez pas ». Et pourquoi ? Parce qu'il y a là un principe immuable. La loi de la réciprocité, tu juges, alors tu seras jugé à ton tour, à un moment ou un autre. Peut-être auras-tu oublié le temps où tu as jugé telle personne, il peut se passer des semaines, des mois, voire des années, mais un jour ou l'autre, eh bien ça reviendra. Juger, c'est un préalable, et je dois me poser la question, avant de m'engouffrer peut-être dans des diatribes et dans des disputes et des querelles, est-ce que moi je suis mandaté, est-ce que je suis autorisé pour juger ? Il est interdit de juger avec légèreté, c'est ce que nous dit naturellement Jésus quand il fait part, eh bien là, dans les paraboles, l'apparence ou la vérité, à tort ou à raison. Il y a naturellement, eh bien, ce proverbe dans le chapitre 26 qui dit ceci, parce qu'il est assez, c'est un clin d'œil et il est assez humoristique. Il est dit ceci dans la Bible, comme celui qui saisit un chien par les oreilles. Ça, c'est quelque chose vraiment à déconseiller, hein, parce qu'il va certainement pas se laisser faire et vous allez apprendre qu'un chien, eh bien, il a des dents. Donc, comme celui qui saisit un chien par les oreilles, ainsi est un passant. Quelqu'un qui, voilà, ça n'a rien à voir, qui s'irrite pour une querelle où il n'y a rien à y faire. Et je pense que, quelquefois, il y a des affaires qu'il ne faut pas se mêler. D'ailleurs, la Bible nous recommande de nous occuper de nos propres affaires et de ne pas s'ingérer dans des situations qui ne nous regardent pas. Donc, principe immuable, c'est la loi de la réciprocité. La deuxième chose, c'est la précaution d'examen. Savoir avec exactitude si l'accusé, s'il est déjà en disposition de repentance et de reconnaître ses fautes, si Dieu a déjà pardonné à cet homme qui s'est repenti et que l'on continue à le condamner, à le juger, quand Dieu l'a absous. Ça, c'est quelque chose qui est grave. Alors, qui peut le savoir ? Ça, il n'y a que, naturellement, Dieu qui juge les cœurs et les consciences. Attention de ne pas prendre la place de Dieu, qui est le juste juge et parfait. Nous savons que tout accusateur doit y réfléchir. Et puis, le troisième point, quand il est dit « ne jugez pas », Jésus nous donne une petite parabole très fine, quand il nous parle de la paille et de la poutre, où il dira « Pourquoi essaies-tu d'enlever finalement la paille dans l'œil de ton frère, de ton voisin, et alors que toi tu as une poutre dans ton œil ?» Donc, nous voyons qu'il y a là des choses qui sont élémentaires et qui sont basiques. Savoir pardonner, croire à la miséricorde, et c'est vrai qu'il y a cette belle parole qui conclut, il est dit « heureux les miséricordieux », dans « miséricordieux », il y a le mot « misère », misère de nos fautes, misère de nos pètes, misère de notre état de pécheur, et cordieux, c'est-à-dire le cœur en quelque sorte. Hein. Il y a une connotation et peut-être un rapprochement de pensée avec le cœur, c'est-à-dire que avoir du cœur pour ceux qui sont dans la misère, et c'est pas seulement une misère physique, ça peut être une misère morale et spirituelle. Car, nous dit la Bible, car ils obtiendront miséricorde, car la miséricorde, je l'ai dit tout à l'heure et je termine, triomphe toujours du jugement. Que Dieu nous bénisse à travers sa parole, à travers cette illustration, et que nous puissions y réfléchir, méditer sur cette situation, parce que personne n'est exempt, en effet, eh bien, de ces traits de caractère que nous avons vus, que nous avons lus, et surtout lorsqu'il s'agit, eh bien, des relations familiales, lorsqu'il s'agit des relations avec notre prochain, mais particulièrement également les relations fraternelles dans l'Église. Nous voyons que c'est deux frères d'une même famille, il y a un père qui est l'image de Dieu. Le père est rempli de miséricorde pour ses deux fils. L'un accepte, l'autre refuse. L'un va re-rentrer dans la maison et l'autre va rester dehors. Que Dieu nous bénisse et à bientôt. Merci de votre écoute.